France Culture. À voix nue. Ce soir encore, Pascal Werner rencontre Georges-Arthur Goldschmidt. Aujourd'hui, le malaise allemand.
Vous avez eu, Georges-Arthur Goldschmidt, une enfance troublée, une enfance déchirée, une enfance expulsée. Vous avez été élève domestique dans le pensionnat où vous aviez trouvé refuge contre le nazisme. Ces temps dépourvus se sont prolongés, vous vous dites encore enfant à l'âge de 18 ans, éternel étudiant à l'âge de 25, hanté par la clochardisation ou la précarité, incapable, dites-vous, de vous fondre dans aucun groupe. Vous avez raconté tous ces traumatismes dans des récits terribles, d'où l'on ressort à la fois brûlé et réconforté, comme si le récit, dans la réitération de ses motifs, avait eu un pouvoir réparateur, un pouvoir de légitimation, un pouvoir pacifiant. Avec votre métier, avec l'amour de votre femme, ce sont ces récits qui vous ont guéri. Vous nous l'avez dit, vous n'êtes pas passé par l'épreuve de la psychanalyse. Et pourtant, la psychanalyse vous a fasciné. Vous avez écrit sur Freud deux superbes essais, « Quand Freud voit la mer » chez Buchet-Chastel en 1988 et « Quand Freud attend le verbe » chez Buchet-Chastel en 1998. Alors ?
Oui, je n'ai jamais fait de psychanalyse parce que grâce à ma femme, je me porte parfaitement bien et là, c'est quelqu'un qui a tout compris. Et si je me suis intéressé à ça, c'est tout à fait fortuitement, c'est parce que j'avais un petit peu fréquenté Clara Malraux, qui m'envoie un jour chez une de ses amies, qui n'est autre que la psychanalyste Julie Dupont, et qui m'a fait demander de participer à un groupe de traduction d'un texte de Freud qui s'appelle « Die Verneinung », la dénégation. Puis moi, j'ai passé mon temps involontairement à leur gâcher leur travail parce que je me mettais à rire chaque fois qu'il y avait une traduction parce que je trouvais ça tellement grotesque et tellement ne pas correspondre à la réalité du texte, ils ont fini par me mettre dehors, très gentiment d'ailleurs. Ça a donné ce livre où je me suis efforcé de montrer à quel point l'allemand, encore une fois, recourt à lui-même pour faire son vocabulaire.
Ce que vous nous montrez dans ce livre, c'est à la simplicité du vocabulaire de Freud, voilà, par rapport à la sophistication du vocabulaire psychanalytique français. Oui. Et en même temps, vous nous apprenez que un des mots maîtres de la psychanalyse en français, le mot désir, n'existe pas dans la langue freudienne, n'existe pas en allemand. Le mot désir est absent.
Le mot désir existe sous la forme de begier, de le désir physique, mais qui n'est pas le désir avec tout ce que ça implique en français. Ou alors vous avez la Sehnsucht que vous retrouvez chez Nietzsche.
C'est la mélancolie,
qui est à la fois l'un et l'autre, qui est à la fois en avant et en arrière, ça.
Et puis il y a le Wunsch qui est le souhait.
Ça c'est le souhait, c'est tout à fait autre chose. Et si vous voulez, ce qui est passionnant, c'est de voir comment les langues déraillent l'une par rapport à l'autre. Par exemple, l'exemple qui me vient, c'est le fameux mot « la pulsion », qu'on a été obligé d'inventer de toutes pièces au début du siècle dernier, vers 1906-07, quand on s'est mis à traduire Freud, alors qu'en allemand, c'est le mot le plus simple qui existe, « der Trieb ». Moi, mon père, quand je laissais tomber ma glace parce que je la tournais du mauvais côté, il me dit « tu vois, chacun est la victime de ses pulsions, il est face à un Trieb ». On ne peut pas être plus simple.
C'est un partenaire au vocabulaire enfantin.
C'est vraiment le vocabulaire de base. Et Freud, quand il ne veut pas recourir au vocabulaire de base, le plus évident, le plus simple, recourt à des mots français. Destruction, etc. Il y a des tas de mots français qu'il introduit dans son vocabulaire, presque comme parce que l'allemand, à la limite, c'est trop simple.
Vous dites qu'il n'a pas eu le besoin de se forger un vocabulaire à part.
Pas du tout. Freud n'invente pas plus de vocabulaire que n'importe qui de son temps. Je défie quiconque de vraiment trouver des nouveautés verbales chez Freud.
Mais Georges-Arthur Goldschmidt, ce qui vous a intéressé chez Freud, c'est à la fois de montrer ses affinités avec la langue allemande telle qu'elle était.
Bien sûr, c'était la
Et deuxièmement, je crois que c'est ça qui a été votre curiosité la plus profonde, c'est celle que l'on trouve dans quand Freud attend le verbe, c'est de chercher le malaise allemand. Parce que vous nous dites que ce qu'il y a de plus troublant dans cette histoire, c'est que la découverte de la psychanalyse va de pair avec la montée du nazisme. Et c'est ça que vous avez voulu, au fond, élucider.
Le premier à s'être aperçu de ça, c'est mon immense arrière-grand-cousin, Henri Heine, dans un texte absolument essentiel qui s'appelle « Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne », où à la fin, dans les dernières pages, il dit ce qui va arriver exactement 100 ans plus tard. Et peu après arrive, une trentaine d'années après sa mort, arrive Freud. Et qu'est-ce que fait Freud? Il décrit l'espèce d'immense drame européen qui est en train de monter à l'horizon, mais qui ne peut pas désigner. Mais tous ces textes montrent bien que du profond de lui-même, il sent ce qui monte. Et une fois que c'est monté, il est muet. Il reprendra l'initiative que tout à fait à la fin, avec l'homme Moïse et le monothéisme, ce texte tout à fait étrange. Mais Freud, j'en suis persuadé, a vu monter. Et surtout, il a vu le malaise extraordinaire de ce pays, vaincu en 1918, qui a eu aussi des millions de morts, mais une seule maison détruite par un avion qui est tombé dessus, alors que la France était totalement dévastée sur un tiers de son territoire, mais totalement. En Allemagne, il y a eu une maison détruite, alors etc. Tout ce qui, cet étrange pays qui n'existait pas, qui est fondé le 21 janvier 1871 à Versailles, qui est entouré de 5 voisins linguistiques différents, qui ne sait jamais où il est, qui est toujours dans le devenir, comme disait Nietzsche. C'est un pays dont le destin est dramatique, qui ensuite devient un pays unique. C'est la catastrophe européenne qui se retrouve ensuite divisée en 3 et qui aujourd'hui est de nouveau réunifiée et dont la capitale se trouve à 30 km de la frontière polonaise. C'est tout à fait étrange. C'est une espèce de destin extraordinaire au milieu de l'Europe. Et comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un malaise qui s'exprime par toutes les pores de ce pays qui est vraiment atteint par les malheurs de l'histoire et qui a fait le malheur de tous les pays environnants, qui, la Shoah, ce serait redoutable de dire que la Shoah est exclusivement allemande, elle est européenne, ça c'est, et l'Allemagne est son lieu, c'est là que ça s'est exprimé, et établi, et fait, tout le vocabulaire qui a présidé à l'extermination est terrifiant, hein. Et ça, Freud a vu, d'une certaine manière, monter ce formidable malheur européen. Et c'est comment, je ne peux pas vous dire, mais c'est tellement flagrant, puisque la psychanalyse se développe exactement dans cette période, de 1890 à, disons, à sa mort, 1938.
Vous dites qu'il y a, dans la langue allemande, tout en assurant que ce qui est en cause, ce n'est bien sûr pas la langue allemande elle-même,
évidemment,
puisqu'elle n'existe pas en dehors de ceux qui la parlent, mais que c'est une certaine forme de germanité dans laquelle l'a fait sombrer un moment de son histoire qui est en cause. Mais vous dites qu'il y a une confusion, il y avait confusion du politique et de l'infantile. Comment ça se fait?
Parce que tout simplement, Leibniz, le grand philosophe, avait déjà dit ça en 1680 quelque chose, dans un texte tout à fait extraordinaire qui s'appelle « Pensée sans préjugés pour l'amélioration de la langue allemande », où il dit que c'est une admirable langue, mais que c'est une langue où le politique n'a jamais pu s'exprimer. Il n'y a pas eu d'accès au politique, du fait de l'histoire. Non pas parce que les Allemands sont incapables du politique, ils le montrent bien qu'aujourd'hui, ils sont totalement intégrés à l'Europe et ils sont plus politiques que la plupart des autres pays qui les entourent, mais pendant des centaines d'années, il n'y a pas eu de langage politique. Leibniz le montre très bien parce qu'il n'y avait pas de capitale, parce qu'il n'y avait pas de centralisation, parce que la langue était restée utilisée uniquement dans l'aspect quotidien et à la rigueur juridique, encore que les choses importantes se faisaient en latin. Et c'est très tard que l'allemand accède au statut de langue.
Vous nous parlez du mot Heimat, et vous dites que c'est un mot particulièrement régressif. Heimat qui veut dire patrie.
Ah oui, régressif sur le plan politique.
Oui.
Oui, parce que ça conduit à la confusion avec le lieu natal. Ça dit Heimat, c'est le lieu où vous avez grandi, où vous avez cueilli vos souvenirs. Mais c'est un mot admirable, c'est un mot merveilleux.
Patrie veut dire la même chose.
Non, Vaterland. C'est un autre mot. Das Vaterland, c'est la patrie. Justement, c'est un mot d'invention post-révolutionnaire. Je ne crois pas que le mot Vaterland ait été beaucoup utilisé avant la Révolution française. On utilisait le mot Heimat pour une raison extrêmement simple, et nous revenons aux politiques.
C'est la maison.
Heim, c'est la maison, c'est le foyer, exactement. Heimat, c'est un suffixe.
Heimlich, c'est familier.
Heimlich, c'est à la fois secret, familier, caché, etc.
Et là, Heimat, c'est le...
C'est le lieu natal. Ça vient de ce que, encore une fois, là, nous sommes de nouveau au cœur du politique. L'Allemagne, jusqu'en 1806, elle était 365. Il y avait un pays par jour. Il y avait 365 principautés, des tyrannies ou pas des tyrannies, mais qui dominaient l'Allemagne. Il y avait 365 petits princes qui étaient des monarques absolus et qui faisaient ce qu'ils voulaient. Soit c'était parfois très bien et généralement le pire. Il ne faut pas oublier que les princes allemands, Schiller, le grand Friedrich Schiller, dans sa pièce Kabbale et Amour, Kabbale und Liebe, montre comment les princes vendent leurs citoyens aux Anglais dans la guerre contre l'Amérique, la guerre de libération américaine. Elle a été faite par des Allemands, vendus à la pièce par les princes allemands pour se faire de l'argent. C'est extraordinaire. Hein. C'était un pays opprimé par des petits monarques absolus qui ont empêché toute vie. Qui n'ont d'ailleurs pas pu empêcher que ça se développe, parce qu'il y a une extraordinaire presse au XVIIIe siècle, il y a une presse allemande extraordinaire, mais sur le plan local, et à qui le politique était interdit. Alors il y avait les beaux-arts, il y a tout ce que vous voulez, mais les Allemands ont été privés de langage politique, par le destin... écoutez, ça remonte au grand génie politique qui est Richelieu, la division de l'Allemagne après 1648. Mais la France l'a payé cher. Ça, pendant 200 ans, elle a eu la paix, mais après, dites donc, les retours de bâton ont été épouvantables.
Donc, vous dites que le renoncement aux politiques a été une donnée de base de l'histoire allemande.
La privation de politique, je dirais.
La privation
du politique. Les Allemands n'ont pas pu accéder aux politiques.
Avant 1871.
Ah, et là, c'est dramatique, puisque c'est l'extraordinaire expansion de cet étrange pays qui est pris d'une espèce de folie, ce qu'on appelle les années de fondation, des Gründerjahre, où tout se met en place en très peu de temps, ce pays, une espèce d'hyper-développement, il y a d'admirable... Alors à ce moment-là, naît tout à la fois, cette immense littérature moderne avec les grands romanciers Döblin, Falada, en 1930, etc. Et toute cette espèce de formidable profusion. Et en même temps, cette extrême richesse, cette extrême pauvreté, ce que nous sommes en train de revoir d'ailleurs. Le drame de l'histoire européenne, c'est qu'aujourd'hui, de nouveau, vous avez cette effroyable division entre les très riches et les très pauvres. C'était l'histoire de l'Allemagne, ça a été ça.
Thank you.
montrer en même temps que ce qui a fait en France, par exemple, la fascination pour la langue allemande, c'est-à-dire la langue philosophique, est totalement usurpée, que vous trouvez, vous parlez de la misérable grisaille de la langue de Hegel, ça c'est dans l'introduction à Nietzsche, et vous parlez de la langue de bureaucrate de Kant.
C'est Nietzsche qui dit ça. Le problème est que contre Napoléon en 1806, le philosophe Fichte a fait les discours à la nation allemande où il prétend que seul le grec et l'allemand sont aptes à exprimer le philosophique, ce qui est une illusion absolue, qui vient simplement de ce que l'allemand, dans son infantilité, dans la reconnaissabilité des éléments qui constituent le vocabulaire, est toujours immédiatement identifiable. Et qu'en plus, vous pouvez combiner ce que vous voulez avec cette langue, qui repose encore sur le principe de l'agglutination. Donc, il y a une illusion fondamentale qui consiste à croire que l'allemand est plus, légende répandue en France particulièrement, apte au philosophique, ce qui n'est pas vrai. Et l'allemand, pouvant faire de lui-même ce qu'il veut, semble, en effet, mieux se prêter plus au jeu de mots, finalement, qu'au philosophique proprement dit. Parce que c'est irrésistible. Les jeux de mots, par exemple, de Heidegger, sont purement du mécano-verbal. Ça se combine dans tous les sens, n'est-ce pas? Et ça, c'est fascinant, évidemment. Mais alors, il y a une confusion entre le jeu verbal, le poétique et le philosophique.
L'exemple, c'est Dasein.
Le Dasein, c'est un...
Ça veut dire l'être-là.
L'être-là, mais ça, tout le monde le dit à tout le... Was für ein Dasein ist das? Oh, quelle existence, c'est... Ach, das kein Dasein, mais ça, c'est plus une vie, ça. Ça. Oui. C'est la langue la plus courante qui existe.
Oui, et c'est pris comme un joyau d'orfèvrerie par les Français.
Mais pas du tout, c'est la langue la plus ordinaire.
Vous m'avez beaucoup amusé parce que vous avez écrit que les Français... utilisait surtout après-guerre énormément de citations allemandes, généralement d'ailleurs bourrées d'erreurs ou fausses. Et vous dites aussi que c'est ça qui m'a amusé, que c'était des gens qui auraient été incapables de se commander une paire de saucisses ou des œufs au plat en allemand.
Absolument. Mais si vous n'avez pas de contact avec le quotidien d'une langue, il vaut mieux s'abstenir de le. Alors vous me direz, ça appauvrit, mais pas du tout. Les traductions, ça marche très bien. Les Français traduisent admirablement, et je vois pas pourquoi on serait obligé de mettre toujours entre parenthèses les mots qui ne parlent finalement qu'à ceux qui les connaissent. Regardez, les premières traductions de Kafka étaient bourrées d'erreurs. L'admirable traduction d'Alexandre Vialat est littéralement couturée de contresens et de faux sens. Moi, je lui ai dit, mais il m'a expliqué comment ça se passait. Et tout le monde a tout compris. C'est-à-dire, c'est pas si grave que ça. Je suis persuadé que les Français lisent Tchekhov ou Dostoïevski ou Tolstoï, en gros, comme ça a été écrit. Nous sommes tous dans la langue humaine. Il y a des portions intraduisibles dans une langue, mais ce n'est peut-être pas ça qui est l'essentiel.
Vous avez été vous-même traducteur, hein, un traducteur réputé d'auteurs aussi importants que Walter Benjamin, Kafka, Nietzsche.
Retraducteur de Kafka.
Oui.
C'est pas la même chose.
Oui, pardon. Et
surtout Peter Handke.
Peter
Handke. J'ai traduit 23 livres.
Alors, j'aurais voulu que vous me fassiez justement un portrait de Peter Handke.
Et je suis tombé sur lui par le plus grand des hasards, parce que mon éditeur Christian Bourgois, qui a eu le courage de publier mes deux premiers récits, Un corps dérisoire et Le Phitibus, qui est un grand éditeur qui a le sens des choses comme ça, neuves et inattendues, qui était chez Julliard, qui dirigeait Julliard à cette époque. Je venais de rapporter mes épreuves et il me dit, Goldschmidt, il faut que vous traduisiez quelque chose pour moi. Alors je dis, oh Christian, ça m'emmerde, la traduction, aucune envie. Et j'ai presque été un peu lié avec lui. Et heureusement, il m'emmène dans son bureau et c'était un tout petit bouquin qui s'appelait Bienvenue au conseil d'administration. Les bras m'en sont tombés et j'ai traduit ça avec un émerveillement absolu parce que j'ai eu la chance de pouvoir traduire quelque chose que j'aurais bien voulu écrire. C'était tellement parfait au point de vue langue allemande. C'est des pastiches, des sortes d'essais. C'était que j'ai eu le bonheur de traduire quelque chose que j'aurais pu écrire en moi. Et puis j'en suis pris au jeu et j'ai continué.
Et d'ailleurs, Peter Handke vous a traduit.
Il a traduit deux livres. Il a traduit La forêt interrompue et Le miroir quotidien.
Oui.
Et magnifiquement, avec des. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est quand des écrivains font des fautes de traduction. Ça ne se voit jamais parce que ça passe dans le poétique qui leur est propre. Et moi, j'ai fait aussi des fautes. Il m'a dit, il y a des certaines erreurs qui sont aussi jolies que ce que j'ai écrit. Et Handke, que je l'ai, lui aussi est un enfant. C'est quelqu'un dont le regard est tout à fait le mien. La manière de poser le regard sur le dehors est le même. Et il y a aussi chez lui cette espèce de puissance du regard enfantin. Ça m'a beaucoup fasciné et c'est pour ça que j'ai traduit énormément de livres de lui avec un plaisir renouvelé. Mais c'est certainement l'un de ceux qui ont le plus modifié notre relation à la perception. La perception toute simple, bergsonienne, ça. Les choses utilitaires qu'on peut aussi voir, la lampe qui est là est aussi une surface noire avec quelque chose de clair en dessous. On peut aussi voir les objets hors de leur utilisation. Et c'est ça qui l'a passionné, cette espèce de vision qui serait non utilitaire. Il est profondément bergsonien d'une certaine manière. C'est très curieux d'ailleurs. Là.
Il a un recours à la langue qui n'est pas instrumentale.
Voilà, exactement. Et sa langue est toujours très claire.
Vous m'avez dit, Georges-Arthur Goldschmidt, que vous aviez changé de style depuis que vous aviez été traducteur. En quoi est-ce que ça a joué ?
Mes deux premiers récits, Un corps dérisoire et Le Philibus, qui ont d'ailleurs disparu,
Non, ils n'ont pas disparu, ils sont épuisés.
Ils sont épuisés, oui, c'est la même chose. Étaient écrits dans une langue un peu, comment dirais-je, un peu excessive, un peu lyrique, un peu coruscante, comme on disait joliment jadis.
Oh, moi, je trouve qu'ils utilisaient la dérision.
C'est ça.
Avec beaucoup de subtilité.
Et la traduction m'a forcé à une espèce. C'est extraordinaire à quel point la traduction vous apprend à écrire. D'abord, la traduction, ça rend modeste. Vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit qui soit de votre fait. Vous devez, rien que ça, être forcé de reproduire exactement, dans la mesure du possible, ce que l'autre a dit, est un exercice admirable et qui, peu à peu, modifie votre propre langue. Moi, c'est la traduction. Le miroir quotidien, La forêt interrompue et Un jardin en Allemagne sont complètement issus du travail de traduction. Je ne dis pas du tout des textes de Handke que je traduisais à ce moment-là, mais de l'exercice physique de contournement que ça implique. Je n'aurais jamais pu écrire sans la traduction, sans cet exercice. Vous la sentez dans le haut des bras, c'est un besoin physique. Ah, c'est une espèce de volupté de l'approche de la langue, et pendant que je traduisais, je notais des choses qui me venaient pour mes propres livres. Exactement parallèlement, au même moment.
Georges-Arthur Goldschmidt, vous avez une thématique bien à vous. Vous êtes en train de travailler à un livre. J'aimerais savoir sur quoi il porte.
Je suis en train de travailler sur deux livres à la fois. Sur le dernier livre que j'écris en allemand, qui s'appelle La Libération, qui se passe en 1944, en Haute-Savoie. Parce que là, l'allemand... ce qui m'a beaucoup intéressé, pourquoi est-ce que je me suis mis à écrire en allemand ? Tout à coup, parce que j'ai écrit sur mon adolescence en France. Et là, tout à coup, l'allemand était sauvé. L'allemand était libre. C'est le français qui m'a rendu la langue allemande. Le français m'a préservé l'allemand, l'a mis à l'abri du nazisme. Et elle m'a rendu une langue, non pas innocente, mais une langue préservée. Et je suis en train d'écrire une espèce de livre qui m'intéresse beaucoup, dont je ne sais pas ce qu'il va devenir, sur les deux langues, sur mon autobiographie littéraire. Je sais que ça commence par La Bruyère et ça va se terminer par Kafka. Comment les deux langues se sont développées, qu'est-ce qui se passe, dont j'ai repéré, fixé, contourné cette simultanéité en moi de ces deux histoires, ces deux langues. Et je m'aperçois que plus je vieillis, plus je suis amoureux de la langue française, qui est vraiment pour moi une langue complètement mystérieuse, de plus en plus. Et figurez-vous, je suis en train de relire attentivement La Bruyère, parce que je trouve ça une langue d'une précision kafkaïenne. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que ces deux langues ont une extraordinaire parenté. Une espèce de cynisme clair, et chez l'autre, une espèce de désespérance lumineuse. N'est-ce pas ? Le cynisme clair chez La Bruyère et la désespérance lumineuse chez Kafka. Et ça se rejoint. Comme si c'était les derniers cris de l'Europe avant qu'elle ne meure. L'un et l'autre. On a peu lu La Bruyère, qui est un espèce d'esprit d'abord d'une incommensurable mélancolie, en quoi il rejoint Kafka, et d'une espèce de joyeuse désespérance, lui aussi, dans un cynisme hallucinant. Et ce cynisme, vous le retrouvez dans la constatation du malheur rigolard chez Kafka, parce que Kafka, c'est drôle. Et quand Kafka lisait le procès, ses amis rigolaient. En allemand, il y a un mot admirable pour ça, ça s'appelle der Galgenhumor.
L'humour sous la potence.
L'humour sous la potence. Et c'est très roboratif.
À voix nue. C'était la fin de cette rencontre entre Pascal Werner et Georges-Arthur Goldschmidt. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Marcel Lebras, réalisation Marie-Laure Ciboulet, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Et dès lundi à 20h, une nouvelle rencontre sur France Culture.